Rencontre spirituelle aujourd'hui, ça peut vous étonner qu'on parle d'Éphrem Longpré. Personne, semble-t-il, à peu près ne le connaît, si ce n'est certains spécialistes, comme les franciscains d'abord, j'imagine, puisqu'il était franciscain, il est mort en 1965, un Québécois. André Dagenais, grand spécialiste aussi, quantité d'autres laïcs, mais c'est bien peu comparé à l'importance de ce personnage, je dis bien de ce personnage, qui était le père Éphrem Longpré, l'un des intellectuels les plus prestigieux du Québec. Un grand médiéviste, spécialiste du Moyen-Âge, donc, et un grand théologien mystique, assoiffé de sainteté et un passionné de Jésus-Christ. Son frère, l'abbé Anselme Longpré, est décédé il y a 2 ans, à l'âge de 93 ans, s'est beaucoup attaché à faire valoir les études et la réputation de son frère en Europe, car Éphrem Longpré, franciscain, a vécu en France. Le père Édouard Parent a publié en 1985 un livre extrêmement intéressant sur Éphrem Longpré, mais le père Anselme Longpré en avait écrit un auparavant. On a dit de lui les choses les plus élogieuses. Il est facile de comprendre pourquoi l'Europe connaît le père Éphrem Longpré et pourquoi le Québec le connaît moins. Après ses études classiques au Collège de Montréal, rue Sherbrooke, et ses études théologiques au Studium franciscain de Québec, Éphrem Longpré est ordonné prêtre le 14 juillet 1918, à près de 28 ans, puis il part immédiatement pour l'Europe. Comme je l'ai dit, il demeure pendant 47 ans jusqu'à sa mort à Paris, le 19 octobre 1965, à 75 ans. Il a déployé en Europe une activité intellectuelle immense. Tous ses écrits, sauf quelques articles signalés dans sa bibliographie qui est immense, ont été édités en Europe. Alors on comprend bien facilement pourquoi il est bien moins connu chez nous, ici au Québec. D'ailleurs, un simple coup d'œil sur sa bibliographie, c'est-à-dire la liste de tous ses ouvrages, ses livres, ses études, les préfaces, les articles, tout ce qu'il a fait, c'est je ne sais trop combien de centaines et de centaines et de centaines de numéros, ça comprend. Eh bien, ça permet d'entrevoir qu'il est, comme l'a dit Jean-Étienne Blais, que beaucoup connaissent, n'est-ce pas, qui écrivait chaque samedi dans Le Devoir des carnets très, très lus. Il a écrit ça il y a 20 ans, en 1979, que le père Éphrem Longpré, on pouvait entrevoir qu'il est le plus grand penseur que le Canada français ait produit. Ce sont des éloges immenses, vous dire exagérés. On va voir au cours de cette émission. Donc, pendant plus de 40 ans, il a permis au Québec, d'une certaine façon, d'être présent partout dans les plus célèbres publications qui sont la gloire de la pensée catholique de notre temps. Vous savez que l'Église catholique est une Église qui publie beaucoup, beaucoup d'ouvrages extrêmement intéressants. Je disais un jour à un prêtre orthodoxe russe à Paris que j'aimais beaucoup, que j'avais interviewé quelquefois, un homme remarquable, je lui disais: faites-vous vos recherches, comment puisez-vous autant de connaissances fantastiques? Alors, il dit, j'aimerais pas que vous disiez ça en nombre, mais je vais le dire aujourd'hui, puisqu'il est mort maintenant, c'est il y a très longtemps qu'il m'a confié ça. Il dit, c'est que je fréquente beaucoup les grandes bibliothèques catholiques qui sont si bien fournies. Donc, pendant plus de 40 ans, le père Longpré a permis au Québec d'être présent, partout, dans les plus célèbres publications qui font la gloire de la pensée catholique de notre temps, comme le Dictionnaire de théologie catholique. J'espère que vous connaissez ce Dictionnaire de théologie catholique, qui est immense. C'est en d'innombrables volumes, ça couvre des rayons. Le Dictionnaire apologétique de la foi, c'est la même chose. Le Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, c'est immense. L'Encyclopédie catholicisme, qui est un peu moins grande. Et les grandes éditions critiques des œuvres théologiques et mystiques des penseurs du Moyen-Âge. Ce sont des publications fantastiques, ça. Et par lui, bien, le Québec a été présent dans la plupart des universités d'Europe, en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Belgique. Vous pensez que j'exagère? Je n'exagère absolument rien au sujet de ce petit Québécois né à Woonsocket et qui a grandi dès l'âge de 4 ans dans un petit village du Québec. À plusieurs congrès d'histoire, à presque tous les grands congrès mariaux internationaux, il s'est prononcé, ses écrits, ses discours ont fait fureur, et on peut dire que, en cette fin de 20e siècle, au début du 3e millénaire, au moment où le Québec prend de plus en plus sa place sur la scène internationale comme un pays reconnu par bien des gens, même au sein du Canada, il convient de faire mieux connaître, il me semble, aux Québécois, d'abord, puis peut-être à tous les Canadiens. Celui dont Étienne Gisson disait à Toronto, Étienne Gisson, c'était le plus grand spécialiste de son temps du Moyen-Âge, il dit « Lorsque le père Éphrem Lompré parle, toute l'Europe écoute », ainsi ce qu'il a dit à Toronto, où il enseignait souvent. Il venait de Paris, Étienne Gisson, enseignait à Toronto. Le père Éphrem, c'est l'homme d'une idée. Quelle idée? Quelle idée? Je vais vous dire. C'est une passion qui dévore sa vie puis qui donne à toute son existence une unité très particulière et vraiment profonde, comme l'explique si bien son frère Anselme Lompré. Sans cesse, ce père Éphrem Lompré franciscain renouvelle ce qu'il appelle son grand vœu. Qu'est-ce que c'est que son grand vœu avec un G majuscule et un V majuscule? C'est étudier, contempler, imiter et glorifier Jésus-Christ. Oui, proclamer et exalter sa primauté absolue et universelle, cosmique et salvifique. Il est au cœur de notre libération. Il est au cœur de l'univers, une primauté absolue sur tout l'univers. Il voulait enseigner que le Christ total est l'objet formel, comme on dit en langage philosophique ou théologique, il est l'objet formel de la théologie. Il est au cœur, quoi, de la théologie, si vous voulez. Exalter aussi ce qui est glorifié Marie Immaculée. C'est l'un des premiers à avoir beaucoup parlé de Marie Immaculée, dont Scott, auquel il s'est énormément intéressé, et il suivait dont Scott, ce grand théologien franciscain d'il y a des siècles. Alors, il voulait glorifier Marie Immaculée et pleine de grâce dès le premier instant de sa conception, reine de la terre et reine du ciel, mère de l'Église, et donc avec le Christ, au cœur même, selon lui, de toute théologie catholique. Et jamais au cours de sa longue et brillante carrière intellectuelle, cet homme, vraiment engagé, n'a dévié d'un iota de cet idéal, ni cessé de le poursuivre jusqu'à sa mort. Et son journal spirituel, fort intéressant, c'était publié par Édouard Parent en 1969, un volume de 323 pages chez Beauchesne à Paris, dans le journal spirituel. Ça témoigne d'une façon claire de tout ce que je viens de vous dire. S'il a aimé à ce point, puis soutenu et défendu ce qu'on appelle l'école franciscaine, c'est-à-dire ces docteurs en théologie, les grands mystiques, franciscains, et en particulier Saint-François d'Assise, évidemment Saint-Bonaventure, puis le bienheureux Jean-Don Scott, c'est uniquement, il l'a dit 100 fois, parce que cette école, à la suite de Saint-Jean, de Saint-Paul, puis des pères grecs surtout, de l'Église, là, a toujours considéré le Christ comme l'objet propre de la théologie, qu'elle a enseigné, cette école-là, la primauté absolue, universelle et inconditionnée de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, comme les orthodoxes le disent si bien, premier-né de toute créature, alpha et oméga. Vous connaissez ça, alpha et oméga, hein? Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, la dernière. Alors, c'est donc le début et la fin de tout. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier voulu par l'adorable Trinité. Et s'il a admiré puis aimé d'un même amour la grande école de spiritualité puis théologie française de Bérulle, dont je vous ai parlé, de Condran aussi, de Nouleau, de Boudon, de Pascal d'Aulier, de Jean-Eudes, de Marie de l'Incarnation, de Montfort, etc., c'est que la doctrine de cette école française est très proche de celle des maîtres franciscains. Or, il faut pas oublier que parce que la grande école thomiste, c'est-à-dire celle qui dépend de saint Thomas d'Aquin, dominicain, n'a jamais placé le Verbe incarné au centre même de sa synthèse théologique parce qu'il n'a jamais accepté la primauté absolue universelle du Christ dans tous les ordres. Il l'a jugé, lui, absolument incapable. De quoi? De ramener au Christ la pensée moderne? Ce qui a été fait avec le Concile Vatican II et ce qui est fait par Jean-Paul II à travers le monde actuellement. Et il jugeait la théologie thomiste inapte à favoriser quelque chose d'extrêmement important, c'est l'union de l'Église orientale, c'est-à-dire l'Église orthodoxe, là, russe, grecque, etc. Cette Église du Christ Pantocrator, comme on dit, puis de la Théotokos, hein, le Christ Pantocrator, et la Théotokos, c'est la mère de Dieu, Marie, à l'Église occidentale, l'unir à l'Église occidentale, c'est-à-dire à l'Église catholique, évidemment. Et toute sa vie, le père Ephrem Lompré, ce petit Québécois, son petit, on dit toujours petit, petit, mais c'est pas petit, c'est un grand, grand Québécois, bien, il en a eu la conviction profonde que cette doctrine, aujourd'hui acceptée par tous maintenant, mais durement combattue de son temps, eh bien, il fallait la propager. Puis Balthazar, Hans-Urs von Balthazar, a bien dit que ce Dieu qui se manifeste dans le Christ n'est pas seulement l'objet de la théologie, mais aussi l'objet formel et le motif de la foi. C'est ce qu'il dit dans La gloire et la croix, cet immense ouvrage dans le tome 1, page 129-130. Pensons-y bien, Maurice Blondel aussi, les deux grands jésuites, Maréchal puis Rousselot, avaient des vues semblables. Alors, il était appuyé quand même par des grands personnages, et il est encore appuyé de plus en plus. Et c'est pour ça que le père Lompré avait une admiration sans borne pour eux, puis la même chose pour le père Auguste Valencin, le père de Lubac, qui est devenu cardinal de Lubac avant de mourir, et le père Ruby. C'est pour ça que le système thomiste, si loin à cette époque de ses conceptions, lui paraissait silencieusement insupportable. Il le disait pas ouvertement, il voulait pas attaquer saint Thomas quand même. Et ça le rendait même responsable, d'après lui, pour une bonne part de la laïcisation de la pensée chrétienne. Or, c'est évidemment là que se situe le drame de la vie du père Ephrem Lompré, que je vais développer tout à l'heure, avec quand même beaucoup d'admiration pour saint Thomas d'Aquin, car j'ai fait des études, moi, plutôt thomiste. Alors, on peut se poser bien des questions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'était un drame, j'ai pas seulement lui qui a été plongé dans le drame, ses amis aussi, dont je viens de vous rappeler les noms, le père Auguste Valencin, dont j'ai déjà consacré une émission sur lui, le père de Lubac aussi, je vous en ai déjà parlé, et quantité d'autres. Parce que, il faut bien comprendre que depuis le pape Léon XIII, qui est mort en 1903, puis surtout jusqu'à Pie XII, qui est mort en 1958, là, les papes ont proclamé la suprématie intellectuelle de l'école de saint Thomas d'Aquin, l'école de théologie, si on peut dire, d'interprétation de la révélation, qu'on appelle thomiste, en l'honneur de saint Thomas. D'accord, ces papes n'ont pas nié la liberté des autres écoles, mais le thomisme avait le droit quasi exclusif, hein, de diriger ou de régir, si vous voulez, la pensée chrétienne dans les facultés de théologie et même les collèges. Le père Ephrem Lompré s'est servi quand même du droit, toujours reconnu à son ordre, les franciscains, et qui a été d'ailleurs rappelé avec une certaine vigueur par Benoît XV, qui encourageait les franciscains, d'enseigner cette doctrine franciscaine qui puisait beaucoup dans le bienheureux Jean Don Scott, ce qu'on appelle le scotisme. Le père Lompré a toujours refusé de se laisser thomistiquer, comme on disait chez les franciscains, thomistiquer. C'est bien saint Thomas, n'est-ce pas? Comme presque tous ses confrères franciscains capucins, d'ailleurs, il ne voulait pas. Par noblesse d'âme et par respect pour le Saint-Siège, il n'a jamais écrit une ligne contre l'école de saint Thomas d'Aquin. Par contre, il n'a pas cessé d'enseigner la doctrine de l'école franciscaine. Il était décidé, même seul, à ne jamais renoncer à ce qu'il a toujours considéré comme sa mission. Laquelle? Sa mission, c'est d'exposer, d'enseigner, par tous les moyens à sa disposition, écoutez bien, c'est très important, la primauté absolue et universelle de Jésus-Christ dans tous les ordres et la royauté de Marie selon les vues de l'école franciscaine. Cela, il l'a fait toute sa vie, avec une âme calme et tranquille mais courageuse, hein, et certain d'être dans la vérité et de conserver cette pierre d'assise de la théologie de l'avenir. D'ailleurs, le Concile, puis tout le renouveau de la théologie prouve jusqu'à la dernière évidence à quel point il a eu raison, et on peut constater aujourd'hui qu'il n'y a plus peut-être un seul théologien digne de ce nom qui n'admette et n'enseigne aujourd'hui la primauté de Jésus-Christ. Comme le dit l'abbé Anselme Lompré, son frère, la synthèse thomiste, qui est enseignée dans les universités catholiques à travers le monde, dans les collèges, qui l'est moins, mais qui l'est toujours, et qui est belle, est définitivement, d'après lui, dépassée. Et toute la théologie d'aujourd'hui est exactement dans le sens entrevu par le père Ephrem Lompré, et que Mgr Müller a exprimé en ces termes, je cite Mgr Müller, l'approche biblique, l'approche patristique avec les textes des pères de l'Église des premiers siècles, disons des 10 premiers siècles, grosso modo, et l'ecclésiologie du corps mystique de Jésus-Christ. Vous savez, il y a une encyclique sur le corps mystique du Christ, on appelle ça l'ecclésiologie du corps mystique du Christ, la conception de l'Église comme corps mystique du Christ. Bien, tout ça, cette approche biblique, patristique, etc., de cette conception du corps mystique, a enfin débouché dans une vision du Christ total comme objet formel de la théologie. C'est une théologie qui a comme objet formel le Jésus-Christ, comme on dit en langage savant. C'est un paradoxe, dira-t-on. Non, le Christ est Dieu et il conduit au Père. Il nous le révèle, dit Mgr Müller. En outre, il est homme. Et comme homme, il s'unit tout le créé qui retrouve dans le Christ et par lui son principe d'intelligibilité. Bon, soyons plus clairs. C'est pour le triomphe de cette doctrine dans l'Église universelle, c'est un fait accompli aujourd'hui, que le père Ephrem Lompré a travaillé, souffert toute sa vie. Il est mort en 1965, le 19 octobre, quelques mois, mon Dieu, deux mois avant la fin de Vatican II. Mais oui, Vatican II s'est terminé le 8 décembre. Et d'ailleurs, le 7 décembre, l'Église orthodoxe et l'Église catholique se sont relevés des excommunications réciproques qui s'étaient données il y a des centaines d'années au 11e siècle. Le Concile a mis un terme à ce long et douloureux débat qui commence au Moyen Âge. Par cette question qu'on se posait, pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Rarement, cependant, un théologien n'a autant que lui, ce Québécois, refusé d'être seulement un théologien, encore moins un métaphysicien, comme on dit, ou un spécialiste du Moyen Âge. Il voulait être comme Saint Paul, comme ses maîtres franciscains, Saint François d'Assise, Saint Bonaventure, le bienheureux Jean Don Scott. Il voulait être comme eux, mais peut-être que le messager de Jésus-Christ et de Marie. Il a été un penseur d'une redoutable puissance. Et son premier ouvrage, La philosophie du bienheureux Don Scott, paru en 1924, un volume qui lui avait été demandé par ses supérieurs, l'a révélé comme un grand et redoutable penseur à toute l'Europe. Oui, toute l'Europe. Il lit au témoignage du cardinal Erle, un jésuite, et de Mgr Grabmann, de Maurice de Wolf, de Jacques Chevalier, d'Étienne Gisson, le plus grand médiéviste de son temps, donc le plus grand spécialiste du Moyen-Âge de son temps. C'est pas des farces, c'est des compliments incroyables. C'est un écrivain, d'ailleurs, qui faisait dire à un connaisseur comme le père Valentin Breton, un franciscain, ce Québécois écrit comme Bossuet. Le père Lompré n'a cherché qu'à proclamer la primauté du Christ et de Marie, je vous le répète. Et quelques semaines avant sa mort, dans une sorte de joie extatique, là, il confiait à son frère Anselme, l'abbé Anselme Lompré, qui est mort, comme je vous ai dit, il y a à peine quelques années. « Je meurs content, disait le père Ephrem Lompré, je meurs content. Et content au-delà de tout ce que je puis exprimer. Personne au Concile, et encore moins les évêques franciscains et les théologiens de notre ordre, n'ose prononcer le nom de Don Scott ni de l'école franciscaine, mais cela n'a pas d'importance. La primauté de Jésus-Christ est enfin admise, et c'est cela qui compte. Proclamée et exaltée par toute l'Église. et le renouveau théologique et biblique lancé par le Concile Vatican II achèvera de rallier même les thomistes les plus farouches. Et je remercie notre Seigneur et Marie Immaculée. J'ai réussi l'œuvre de ma vie. J'ai accompli ma mission, cette mission dont j'ai reçu la confirmation très nette et très claire de la part de Marie elle-même, 4 fois à Lourdes. Et comme l'abbé Lompré essayait de lui faire préciser de quelle manière il avait reçu cette confirmation de la part de Marie, il lui a répondu avec un air taquin qu'il prenait dans de telles circonstances, « Allons, Anselme, penses-tu que la Sainte Vierge ne sait plus parler ?» Puis il réaffirme, « Oui, 4 fois, la Sainte Vierge m'a dit d'être fidèle à ma mission et m'a assuré que bientôt, la primauté du Christ serait universellement acceptée et proclamée par les papes jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, quand les gens faisaient avec lui le bilan de certaines années dramatiques de sa vie, bien, il lui arrivait souvent tout à coup de se taire, hein, il se repliait dans le silence, comme si tout au fond de lui-même, ce bon père Lompré était plongé dans un monde connu de lui seul, un monde où, bien au-delà des querelles des hommes et des controverses d'école, il retrouvait au fond de lui sa vérité, sa liberté, sa lumière. Et alors, son visage devenait comme illuminé et revêtait une paix et une joie céleste. Et si la vie mystique là se situe à ce point où un homme vit dans les profondeurs les plus secrètes de son âme, dans la vibration, si on peut dire, de toutes les puissances de son être, et jusque dans sa sensibilité la plus humaine, là, l'amour embrasé de Jésus-Christ, ben, il expérimente et savoure la présence amoureuse du Christ et sa perte en lui. Hein. Il faut dire, sans crainte, que le père Ephrem fut non seulement un intellectuel de grande classe, mais aussi un mystique authentique et un prêtre à la manière du Saint Curé d'Ars et de Saint Bonaventure. Oui, tout le monde s'est entendu pour dire qu'il a été le plus grand spécialiste du Moyen-Âge, le plus grand médiéviste et l'un des plus grands théologiens mystiques de son temps. Mais, il faut dire, il n'a pas choisi de l'être, c'est seulement par obéissance à ses supérieurs majeurs, comme on dit, et par un souci constant d'accomplir la volonté de Dieu dans toute la perfection possible. De lui-même, le père Ephrem Lompré, en bon Québécois, aurait souhaité être missionnaire au Japon, ou, comme le père Anselme Fischer, parcourir les villes et les campagnes en prêchant l'Évangile, puis confesser jour et nuit, puis assister les malades, les malheureux, les désemparés de ce monde. Mais ses supérieurs majeurs et locaux ont toujours respecté, évidemment, avec admiration, son idéal de prêtre, puis d'apôtre. Ils l'ont encouragé d'une autre façon, à poursuivre à travers une vie intellectuelle immense. Il a été soutenu, mais il a toujours voulu servir le Christ et l'Église, la primauté du Christ. Il célébrait la messe d'une façon admirable. Il adorait le Saint-Sacrement. Il restait au confessionnal durant des heures et des heures. Il faisait des conférences spirituelles. Il assistait les malades, les mourants, les désemparés de la vie. Aujourd'hui, donc, il est question du père Ephrem Lompré, un Québécois, qui est né le 24 août 1890, il a été baptisé le lendemain dans l'acte de baptême. Il est écrit, je sous-signé, certifie que Zéphirin, c'était son prénom de baptême, Eugène, un autre prénom, enfant de Joseph Lompré et d'Adéline Richard, né le 24e jour du mois d'août 1890, a été baptisé dans l'église du précieux saint Woonsocket, Rhode Island. Or, en 1891, l'année suivante, il y a une guérison fantastique. Il écrit dans ses mémoires ce qui suit, c'est intéressant. Évidemment qu'il a appris ça de ses parents. J'avais un peu plus d'un an lorsque je fus atteint d'une grave diphtérie. J'étais perdu. Le docteur Archambault laissa le foyer en disant à mes parents que le petit ne passerait pas la nuit. Dans sa douleur, ma mère me prit dans ses bras et elle m'éleva vers une image populaire du cœur de Marie, qui se trouvait au-dessus du lit en disant, « Je vous confie mon enfant. Si le bon Dieu veut qu'il soit un jour un prêtre, je vous le donne. Quel bonheur ce serait pour moi. » Elle me remit au berceau et je m'endormis. Mon père, 2 fois avant et après, ma mère, 1 fois après mon ordination, m'a raconté le fait dans les termes que je reproduis. Et le lendemain matin, vers 10 heures, le docteur Archambault s'arrêta pour savoir à quelle heure était mort le petit. Et maman était seule. Mon père se trouvait au travail. Elle me montra endormie. J'étais guéri complètement et le docteur Archambault n'en revenait pas. Il lui a dit, « Votre prière l'a sauvé. » Il est reparti bouleversé. 3 ans plus tard, le 8 avril 1894, retour au Canada de la famille Joseph Lompré et achat d'une ferme à Saint-Éphrem d'Upton, dans le comté de Bagot, au Québec. Le 13 juillet 1918, veille de son ordination sacerdotale, il a eu un sommeil mystique, dit-il, dont il a fait lui-même le récit dans ses mémoires, et qu'il a toujours considéré comme l'une des grandes grâces de sa vie. Il en parlait encore à ses intimes peu de temps avant sa mort. J'ai le texte ici, page 75, de cet ouvrage, Éphrem Lompré, d'Édouard Parent. Voilà la première impression de la grâce sacerdotale que j'ai reçue en sommeil mystique. Je n'ai entendu aucune parole, je n'ai eu aucune expérience, des larmes versées si abondamment. Je croyais seulement dans un bonheur qui me transporta au seuil du ciel. Et après avoir écrit ces lignes où chaque mot est sévèrement pesé, je m'agenouille en adoration et action de grâce devant Jésus hostie. Le 14 juillet, donc le lendemain, l'ordination sacerdotale dans la chapelle des Franciscains à Québec, et dans ses reportata, il note la présence de son père, de sa mère, de sa sœur franciscaine et de sa sœur Élisabeth Lise. Et finalement, bien, le 15 juillet, le lendemain, première messe dans notre chapelle de Québec, dit-il. L'émotion était vive. Je ne fus point capable de chanter les oraisons pour le nouveau prêtre avant la messe, et que de fois les larmes les plus douces me sont tombées des yeux durant le canon et le sermon. Mais le 27 septembre de la même année, c'est l'envoi de son premier article, La pensée des saints, au père Bruno Rousselat pour la revue franciscaine. Le père Bruno l'invite à lui envoyer souvent des articles de cette valeur. Ça commence. Le mois suivant, le père provincial lui annonce que le ministre général des franciscains l'appelle immédiatement à Rome comme étudiant à l'Institut oriental, récemment fondé par le pape Benoît XV. Et le 9 décembre, ouverture des cours à l'Institut oriental. Et après 2 ans d'études, il obtient le grade de docteur en théologie avec la note summa cum laude, la meilleure note. 2 ans plus tard, départ de Rome, donc pour le collège Saint-Bonaventure, à Quaracchi, Florence, si vous voulez. Et en octobre 1927, donc 7 ans plus tard, premier voyage au Canada. Il donne plusieurs conférences sur l'école franciscaine à Montréal. Et un spécialiste de Don Scott qui vit à Montréal, ici un homme marié, André Dagenais, écrivait dans la presse le 9 septembre 1985. On était à l'automne de 1927 et venait d'arriver au Québec, d'Europe, et plus précisément d'Italie, un franciscain canadien français auquel ses amis, apprenant cette arrivée, se mirent à réclamer un tourbillon de conférences que ce religieux n'avait ni prévu ni voulu. Aussitôt se manifesta un branle-bas de combat. À Québec, le recteur de l'Université Laval, Mgr Camille Roy, non seulement refusa de patronner une conférence du père Éphrem, mais même de mettre une salle à sa disposition. Et à Montréal, les dominicains de la faculté de philosophie avaient agi dans le même sens. C'est là que j'ai fait mes études, à la faculté de philosophie de l'Université de Montréal. Qui était donc ce personnage apparemment subversif qu'on refusait d'entendre et auquel, de toute manière, on ne voulait rien faciliter? Les dominicains de la faculté accueillaient pourtant volontiers Étienne Gisson, professeur de la Sorbonne de Paris, et au St. Michael's Institute de Toronto, comme je vous ai dit tout à l'heure. Or, rappelle André Dagenais, Étienne Gisson, de passage à Montréal juste l'année précédente, leur avait dit « Je ne connais pas actuellement de plus grand médiéviste que votre compatriote le père Éphrem Lompré. » Et à Toronto, Gilson avait déclaré, je vous l'ai dit tout à l'heure, « Quand Éphrem Lompré parle, toute l'Europe écoute. » Édouard Parent, dans son livre, trace la carrière de cet homme extraordinaire, à la fois véhément et savant, écrit André Dagenais. « Passionné et saint, aucun écrivain du Canada français n'a une œuvre aussi savante et aussi abondante que celle du père Ephrem Lompré. Le répertoire de ses livres, articles de revue, ouvrages en collaboration et articles publiés dans des dictionnaires religieux et encyclopédies couvre 13 pages de cette bibliographie. Puis il rappelle ce que Jean Etier-Blais disait, le plus grand penseur que le Canada français ait produit. C'est un article fort intéressant d'André Dagenais paru en 1985, le 9 septembre, un témoignage sur Ephrem Lompré. C'est beaucoup plus long que ce que je vous ai lu. De 1927 à 1938, la poursuite de ses travaux scientifiques à Quaracchi, Florence, si vous voulez, et longue série de voyages, de recherches à travers la France, l'Angleterre, l'Écosse, la Pologne, la Lituanie, l'Espagne, le Portugal, la Suisse. Tout un Québécois qui se promène. Et au printemps de 1938, une liste de 450 manuscrits des œuvres de Don Scott, dont un grand nombre avait été repéré et décrit pour la première fois par le père Ephrem. Alors en août, les plus importants, ces manuscrits, ont été photographiés et tout, en tout ou en partie, et formaient un ensemble, imaginez, de près de presque 36 000 photographies, dont pas moins de près de 30 000 des œuvres même de Scott. Ce travail de géant a seul rendu possible l'édition critique des œuvres du bienheureux Jean Don Scott. Le 9 février 1937, le père Ephrem quitte Quaracchi et se fixe à Paris au monastère de la rue Marie-Rose, chez les franciscains, où il va demeurer jusqu'à sa mort. Il va poursuivre sa vocation d'historien de théologie mystique. C'est l'heure des grands travaux personnels. En 42, il est recherché par la Gestapo, les nazis. Il doit quitter le Paris, il se rend au monastère de Pau, près de Lourdes, P-A-U, hein, près de Lourdes. Il prend le nom de Louis Richard. Deux ans plus tard, ou presque un an et demi plus tard, il vit déguisé chez un monsieur Louis Charles, un marchand de peau qui le cache dans sa maison natale, jusqu'à la libération. Et puis, en janvier 1945, il revient à son monastère à Paris, puis la libération de Paris, puis en 1950, publication de l'œuvre la plus considérable de sa vie, c'est son article, je vous le signale, sur Saint Bonaventure dans le dictionnaire de spiritualité, cet immense dictionnaire qui comprend je ne sais combien de volumes. En avril 1954, fait un voyage à Milan pour les solennités organisées en l'honneur de son ami, le père Augustin Gemelli, dont je vous parlerai bientôt, un franciscain aussi grand converti de l'athéisme, fondateur et recteur de l'Université du Sacré-Cœur, puis il y prononce un discours sur Don Scott et l'Immaculé, puis se rend ensuite à Quaracchi, où il a travaillé pendant 20 ans. Il est très bien reçu. Et puis finalement, en 65, il entre à la clinique de la Croix-Saint-Simon à Paris. Il souffre d'une grave crise d'hépatisme. Et puis, son frère Anselme vient le retrouver pour l'aider à mourir. Et son frère, l'abbé Anselme Lompré, signale que vendredi, le 15 octobre 1965, le contact avec le monde extérieur semble être disparu chez le père Ephrem Lompré. Mais il ne parle plus beaucoup avec nous et son dialogue avec le Christ se poursuit intensément. Il est conscient, en dépit des apparences, et sa prière exprimée, essentiellement par le mot « oui », trouve d'autres formules tout à coup. Et il dit, dans un souffle, « Pour vous, Jésus ». Puis de plus en plus, il s'arrête sur « Jésus, Jésus ». Il dit encore, « Assez, venez, merci, c'est bon ». Les quelques fois qu'il a prononcé « Assez, venez », il mettait tant de douceur qu'on aurait cru qu'il ne voulait pas exprimer un désir, puis une formule assez longue, toute nouvelle, prononcée avec force et netteté, « Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi ». Et le père Anselme Lompré écrit, il le répète, « Je me lève et je lui demande à qui il s'adresse, il dit, « Au Christ, oui ». Il faiblit. Samedi le 16, la nuit a été calme. Et dimanche le 17, à 15 heures, le dialogue avec le Christ se poursuit toujours. Il continue d'acquiescer la volonté de Dieu. C'est le même calme, la même sérénité. Il n'y a pas vraiment une agonie, ni fièvre, ni crainte, l'attente paisible. Il a servi le Christ toute sa vie et le Christ l'assiste, c'est évident. À ses côtés, point de place pour la tristesse. Et le père, l'abbé Anselme Lompré, crie, nous attendons avec lui, nous nous unissons plus à sa prière que nous l'invitons à prier. Et lundi, le 18, vers 20 heures, Il a des sursauts de lucidité très courts, mais évidents. Son dialogue avec le Christ ne jaillit plus sur ses lèvres. Vers 5 heures, dans la nuit du 19, les bras se figent à ses côtés, la respiration se fait plus profonde et forte, et ça accélère son rythme. Puis à 6 heures, tout est fini, ou tout commence. Oui, le matin du 19 octobre 1965. Pour lui, c'est le face-à-face avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Oui, lui, Ephrem Lompré, qui a cherché avec générosité à être un adorateur au-delà de ce voile qui nous cache Dieu. Il est rentré chez le Père comme on rentre à la maison à la fin d'une année scolaire, on rentre joyeux. On ne peut appeler une telle mort une mort. Il n'est pas mort. En tout cas, il n'a pas subi la mort. Il l'a vécu comme une grande et dernière messe. Dans son ouvrage sur son frère, l'abbé Anselme Lompré a écrit un épilogue absolument admirable. Il écrit que le père Ephrem Lompré, franciscain, je vous le rappelle, décédé à 75 ans en 1965, très, très, très grand savant. Le père Ephrem Lompré était très conscient d'avoir reçu de Dieu une mission bien précise. Rallier tout l'ordre franciscain et toute l'Église à la doctrine de la primauté absolue, inconditionnée, universelle de Jésus-Christ. Cette doctrine lui paraissait avoir été exposée clairement par saint Paul, notamment dans l'Épître aux Éphésiens et dans l'Épître aux Colossiens. Donc, dans l'Épître aux Colossiens, qu'est-ce que dit saint Paul au chapitre 1er? Je vous lis les versets 15 à 21. C'est pas très long, mais écoutez bien, c'est de toute beauté. C'est écrit il y a 2000 ans. Et Ephrem Lompré a repris ça. Il est, le Christ, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dit saint Paul, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les choses visibles et invisibles. Trône, vous connaissez ça, c'est des anges. Seigneurie, d'autres sortes d'anges. Principauté, puissance, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et il est la tête du corps, poursuit saint Paul, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en tout la primauté. Car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix, qui est sa vie, son âme. Notre doctrine, d'après la conception juive, je vous le répète, cette doctrine, donc, de la primauté absolue et universelle du Verbe incarné, et conséquemment de Marie et de l'Église, disait le père Ephrem Lompré à son frère Anselme, je l'ai apprise. Oui, je l'ai appris chez les théologiens et les mystiques de l'école franciscaine nourrie de saint Paul, justement, et de saint Jean. Chez les pères grecs aussi, les pères de l'Église, les grands auteurs grecs que l'on appelle orthodoxes aujourd'hui, mais ils étaient unis à nous, nous étions à la fois orthodoxes et catholiques avant le grand schisme de 1056. Il l'a puisé aussi chez saint François de Sales, dit-il, et chez les grands mystiques de l'école française. Je respecte ceux qui ne pensent pas comme moi, mais je réclame d'eux le même respect, et un jour viendra où le renouveau biblique, amorcé depuis une cinquantaine d'années, qui a atteint si haut développement en ces derniers temps, fera naître la synthèse christologique de l'avenir, disait le père Ephrem Lompré. Ce sera la fin des écoles particulières de théologie, il n'y en aura plus. Ce sera une seule et grande Église. Il ne sera plus nécessaire d'argumenter. La primauté absolue et universelle de Jésus, de Marie et de l'Église apparaîtra dans une telle évidence que tout le monde, se demandera comment on a pu penser autrement pendant si longtemps. Et le père Anselme Lompré écrit, 100 fois, il a dit et écrit, son frère, « On me dit scotiste. » On m'appelle même le prince des scotistes. Bah, scotiste, sûrement je le suis. Mais toute mon œuvre est là pour le prouver jusqu'à la dernière évidence, si j'accepte mon livre de la philosophie de Don Scott, 1927, là, qui m'a été imposé sans discussion possible par les supérieurs majeurs de mon ordre. Je n'ai jamais écrit 10 lignes pour défendre tel ou tel point des opinions philosophiques ou théologiques de Don Scott. Oui, je suis scottiste, parce que Don Scott est le docteur de la primauté absolue et universelle du Christ, de Marie et de l'Église, même si, dans l'ensemble, certaines opinions de Scott me plaisent plus que celles des autres écoles, je ne lèverai jamais, jamais le petit doigt, ni pour l'une, ni pour l'autre. Puis, il paraît qu'avec humour, puis dans des conversations familières, là, le père Ephraim Lompré disait, « Galilée a failli être brûlé parce qu'il enseignait que la Terre tourne autour du Soleil et non le Soleil autour de la Terre. C'est toute la différence. Et elle est énorme et irréductible entre l'école franciscaine et l'école thomiste. Pourquoi? Parce que nous, nous enseignons que c'est la Terre, c'est-à-dire tout le créé, qui tourne autour du Christ, et non le Christ qui tourne autour du créé. La grandeur du père, il y avait un peu d'humour. La grandeur du père Ephraim Lompré, donc, c'est l'unité de sa vie, que ni les hommes ni les événements n'ont jamais pu briser. Mais qu'elle est toujours se consolidant, cette unité. Et il a voulu une seule chose, que la primauté du Christ, je le répète, et sa royauté soient reconnues et proclamées, et que tous les hommes et toutes les nations en acceptent les heureuses conséquences. Les conséquences sont immenses. On perd plus la foi en la divinité du Christ. C'est pour ça que je donne cette conférence dans quelques jours. Quelques semaines avant de mourir, il ne cessait de redire, je meurs content. Je suis si content et si heureux que mon bonheur intérieur me fait oublier les atroces souffrances de mon corps. Oui, j'ai entendu les discours de Sa Sainteté Paul VI au Concile et jamais dans l'Église on n'a entendu de tels accents depuis Saint Léon le Grand. Ça fait longtemps, ça. 1500 ans. La Vierge de Lourdes m'a dit tant de fois intérieurement que j'entendrai moi-même un jour toute l'Église proclamer la primauté du Christ. Je l'ai entendu, ayant pu lire et savourer les constitutions et les décrets du deuxième Concile du Vatican. Avec ce Concile, le débat sur la primauté du Christ est clos pour toujours et impossible de lire les textes du Concile si l'on n'admet pas la primauté du Christ. C'est donc très heureux en même temps que le Concile se soit appuyé uniquement sur la Sainte Écriture, sans se référer à aucune école théologique particulière. L'Écriture suffit. Il indique du coup que le temps des écoles est maintenant terminé. Alors, qu'elle ne doit pas être, on puisse imaginer au ciel sa joie d'entendre maintenant Sa Sainteté, notre pape Jean-Paul II, proclamer par toute la terre la primauté du Christ et de Marie. Nulle part encore, il l'a fait avec tant d'insistance, Jean-Paul II, et d'une façon peut-être aussi forte que dans notre pays, au pays du père Ephraim Lompré, le Canada, le Québec surtout, lors de son grand voyage apostolique du 9 au 20 septembre 1984, hein, tout le monde s'en souvient. Dans la façon de gouverner qu'a Dieu, aucun événement n'est pure coïncidence. Hein? Peut-être que Dieu voulait réjouir le cœur du père Ephraim Lompré. Peut-être. Pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est la fête aussi de Saint Paul de la Croix. Hein? Bon, je vous ai déjà, je vais vous parler. C'est un qui était né à Gênes, dans le nord de l'Italie, et qui a fondé les passionnistes. Je vous en parlerai. L'antienne d'ouverture à la messe du temps ordinaire aujourd'hui s'ouvre sur des paroles que l'on pourrait appliquer au père Ephraim Lompré. C'est le psaume 53. C'est beau les messes, c'est beau les textes des messes. « Voici que le Seigneur vient m'aider. Dieu, mon appui entre tous. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à son nom, car il est bon. Et je prends l'oraison qui suit. C'est si beau, que c'est beau ces prières. Sois favorable à tes fidèles, ô Dieu notre Père. Et multiplie les dons de ta grâce entretient en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient tes fidèles, attentifs à garder tes commandements. Qui sont quoi les commandements? Les conseils essentiels, fondamentaux du bonheur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.